tous, vous allez bien? Gloire à Dieu. C'est bien, c'est bien. Ce soir, j'ai un message pour initiés, ce n'est pas un message pour bébés pentecôtistes. C'est pour des gens qui veulent en savoir davantage, qui ne veulent plus être trompés par des doctrines bizarres ou par des expériences. Vous savez, il y a des gens qui font des expériences et à partir des expériences, ils font des doctrines. Eh bien, nous, non. Nous, non. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et c'est tout. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir dans Matthieu 12, 24, s'il vous plaît. Les pharisiens ayant entendu cela, voyez, je peux même prendre au verset 22. Alors, on emmena à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David ? Et les pharisiens, religieux, c'est terrible, je ne peux pas m'empêcher, hein, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est des religieux. Hein. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Voilà, que Dieu bénisse sa parole ce soir dans nos cœurs. On va dire amen après une telle chose, c'est une horreur qu'ils ont dit là, ces pauvres gens. Boing, boing, je casse tout. Tout qui tombe. Frères et sœurs, quand l'homme a perdu Dieu de vue, il a commencé à avoir tout faux. Ça, c'est le gros problème. Alors, il se fabrique des religions, et puis il tâtonne, il trouve des trucs, il fait des expériences, il croit que c'est comme ça, et alors il bâtit des doctrines sur ses expériences, et puis il fait des échafaudages, des machins bizarres, et puis alors les gens, vous savez, il suffit qu'on répète souvent les mêmes choses pour qu'à la fin, ça devienne, même si c'est un gros mensonge, hein, ça devient la vérité, on y croit, c'est comme ça. On en est arrivé à nos jours à ne pas être sorti de cette histoire, à penser que le diable, en fait, a des capacités que Dieu n'a pas. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils étaient en train de dire, les pharisiens, là. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Eux qui étaient les représentants de Dieu sur la terre, ils faisaient quoi? Ils rendaient la vue aux aveugles? Ils faisaient marcher les paralytiques? Ils faisaient ça, eux? Non. Bon. Alors, Jésus arrive, il le fait, ça ne peut être que par la puissance du diable. Vous voyez? C'est quand même terrible. Si vous faites un miracle, les gens vont penser que vous travaillez avec Satan. Les religieux pensaient ça de Jésus, ils n'ont pas changé de nos jours. C'est toujours pareil. Quand on a perdu de vue Dieu, alors on pense des choses toutes fausses. Par exemple, ils critiquaient Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, vous savez, il ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas des choses extraordinaires, raffinées et tout. Et puis ensuite, quand Jésus est arrivé, lui, par contre, il buvait son coup. Hein, il buvait du vin, il mangeait des choses formidables chez des gens bizarres. Donc, ils ont commencé à dire que c'était un pécheur, etc. Donc, ils critiquaient, voyez, le mal partout. Enfin, le mal partout. En fait, c'est pour ça qu'ils sont malheureux. Malheureux. De nos jours, ils critiquent ceux qui vivent d'une façon austère, comme par exemple les branhamistes. Alors là, ils vivent comme ils sont, c'est austère, la l'air, tout ça. Et puis aussi, ils me critiquent, moi, qui bois du vin, qui aime bien le rock'n'roll, tout ça. Ils disent, ouais, mais c'est pas possible que Dieu puisse répondre à un homme pareil. Il n'est pas sanctifié. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même truc. Ils se font des idées fausses au sujet de Dieu, au sujet du diable, au sujet d'à peu près tout. Seigneur, mon Dieu, que je suis content d'être au milieu du chemin, non pas simplement sur un bord ou sur un autre, mais d'être bien équilibré sur le milieu du chemin. Gloire à Dieu. La plupart des gens pensent que Dieu peut maintenir et aime maintenir les humains dans la faiblesse et dans la médiocrité. C'est là que se trouve la sainteté. Et alors, aussitôt que quelqu'un devient prospère, tout de suite on pense que soit il était malhonnête ou alors, eh bien, c'est le diable qui lui donne un petit coup de pouce, mais que de toute façon, on rira bien qu'il rira le dernier. Et c'est comme ça qu'on pense la plupart du temps. En fait, pour eux, d'après eux, le diable, lui, il est capable de donner l'abondance, et puis Dieu, gloire à Dieu, il nous donne une merveilleuse médiocrité. C'est ça? Alors, il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs, que des hommes et des femmes signent des pactes avec Satan, c'est logique. C'est logique. Les religieux eux-mêmes véhiculent l'idée que Satan est plus fort que Dieu. C'est logique qu'on aille chercher là où il y a l'abondance, là où il y a la santé. Hein? Les guérisseurs, ils travaillaient avec le diable et tout ça, voilà. Et puis alors, les serviteurs de Dieu, rien, ils priment, il ne se passe jamais rien. Alors, quand même bizarre cette façon de voir Dieu. Les dons, la connaissance, les pouvoirs, tout ça, ça vient de l'adversaire de Dieu. Mais Dieu, non, non, on se demande ce qu'il fabrique. Frères et sœurs, c'est là qu'on arrive quand on a perdu les clés du vrai savoir et qu'on a remplacé la parole de Dieu par des doctrines bizarres, étranges, des croyances bizarres, étranges, venues d'ailleurs. Dans les milieux chrétiens, les gens sont absolument obsédés par l'idée du diable, ils imaginent qu'il est partout, en train de s'infiltrer dans les êtres humains pour leur faire ceci, pour leur faire des choses abominables. Alors, croyant qu'ils ont été mandatés par Dieu pour chasser les démons, ils partent en guerre contre des démons qui n'existent pas. Ils chassent des démons là où il n'y en a pas, la plupart du temps. C'est terrible. C'est terrible. Dans certains milieux religieux, ailleurs, on persécute les infidèles sous prétexte de prendre parti pour Dieu. Hein, suivez mon regard, vous voyez de quelle religion je suis en train de parler. Oh, on n'a pas à leur faire la morale. Nos religions chrétiennes, elles se sont bien chargées aussi pendant des siècles, quand elles avaient l'autorité pour le faire, de persécuter les infidèles et d'allumer les bûchers. Donc vous voyez, toujours c'est la religion. En fait, ils se font les auxiliaires du diable en croyant servir Dieu. Ils font que de renforcer la puissance du diable, en fait. Maintenant, écoutez bien ça. J'en viens au fait de ce que je veux vous dire. Ça va peut-être vous faire sauter au plafond, mais tant pis, je vous le dis. Et puis vous y réfléchirez après. Et puis si vous avez quelque intelligence spirituelle, vous allez voir que j'ai raison. Le diable est un serviteur de Dieu. Oui, monsieur. Dieu se sert de lui pour aiguillonner les humains, pour les pousser en avant. Et Dieu n'a absolument pas besoin de nous pour combattre le diable. Il est grand, il sait très bien se débrouiller tout seul. Non, mais... est-ce que vous vous souvenez de Job ? Job, c'est écrit dans la Bible. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi se tint vint au milieu d'eux. Vous vous rendez compte ? Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Satan en personne assistait à cette réunion. Il n'y avait pas réunion plus sainte. Dieu était là. Les fils de Dieu. Et puis, Satan vient, il ne se tient pas au fond, il ne se tient pas sur un côté, derrière, un peu caché, derrière une colonne, ou je ne sais pas quoi. Non, non, il est au milieu d'eux. Et, donc au même rang hein, que les esprits de lumière. Et pire encore, c'est à lui seul que Dieu s'adresse. Vous avez remarqué ça? Il ne parle à personne d'autre qu'à lui. C'est bizarre quand même. Il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas seulement lire le texte. Il faut réfléchir à ce qui est dit là. Et puis, quelle conversation, mes frères et sœurs. Tiens, on va la lire, la conversation. Alors, Job. Voilà. Où est-ce que c'est? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière de l'intéresser que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La suite, vous la connaissez. Tous les malheurs sont tombés sur Jikel. Non, sur Job, pas seulement sur Jikel. Hein. Mais sur Job. Alors, il perd tout ce qu'il avait, ses enfants, ses troupeaux, ses maisons, tout, il perd tout. Mais Job ne se révolte pas. Quelque temps après... il y a une autre réunion des fils de Dieu. Ça a l'air d'être, il doit y en avoir souvent. Hein? Donc, une autre réunion des fils de Dieu, et le Seigneur dit à Satan, parce qu'il est encore là, il est toujours là, hein? Il est fidèle aux réunions. Hein? Fidèle aux réunions. Et il est là, et alors Dieu lui dit, encore il lui adresse la parole à lui, on ne sait pas ce qu'il a dit aux autres, peut-être même rien dit du tout, mais en tout cas, lui lui parle. Alors, tu vois, tu n'as pas réussi, hein? Job me reste fidèle. Et Satan répond, oh, je n'ai pas réussi parce qu'il a toujours la santé, mais enlève-lui la santé, tu vas voir, il va se révolter. Bon, ok, d'accord, vas-y, essaye, mais ne lui ôte pas la vie. Voilà, hein, je vous résume en gros la conversation. Et Job subit toutes les souffrances possibles et imaginables. Il est abandonné donc de tous, tellement qu'il est malade. Vous savez, quand tout va bien, vous avez tous les amis. Quand vous êtes riche, vous avez tous les amis. Quand vous n'avez plus rien, plus la santé, plus rien, vous n'avez plus personne. Voilà, c'est comme ça. Hein. Le corps couvert d'ulcères, mais il ne se révolte pas. Il ne se révolte pas. Il ne reste que sa femme, en fait, qui, elle, le pousse à se révolter en plus. Mais non, il ne se révolte pas. Alors, Dieu finit par tout lui rendre, et même davantage. Hein, c'est un gros résumé que je vous fais là, mais c'est bien la vérité. Et c'est très intéressant. Dieu, tout en autorisant Satan à tourmenter Job, met des conditions. Moi, ça m'intéresse, ça. Ça me fait réfléchir. Une première fois, Satan n'avait pas le droit, il avait le droit que de toucher au bien de Job. Il n'avait pas le droit de toucher à sa personne. La deuxième fois, conversation, gna gna gna, Satan obtient de Dieu de pouvoir toucher à la santé de Job, mais il doit lui laisser la vie. Vous voyez, il y a des conditions, hein. Et ce qui me choque, c'est que Satan obéit. Il obéit. Il n'a jamais tourmenté Job plus qu'il n'était convenu avec Dieu. Jamais. Qu'est-ce que ça m'apprend? Il faut réfléchir un petit peu. Eh bien, que le diable, les mauvais esprits, tout ça, ne s'opposent pas à Dieu, mais ils respectent la volonté de Dieu. Je vous ai dit que j'allais vous tourner comme des crêpes et vous faire sauter au plafond. Tous ceux qui descendent auprès de vous pour vous éprouver, pour vous tenter, pour vous faire souffrir, ne sont que des employés, des fonctionnaires qui sont là pour vous donner des leçons, pour vous faire évoluer et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils font leur boulot. Bien sûr, les démons, eux, ils pensent qu'ils vont vous détruire. Ils pensent qu'ils vont chagriner Dieu. Ils pensent tout ça. Ou qu'ils vont vous pousser à la révolte, que ça va faire pleurer le Seigneur. Hein? Et qu'ils vont vous pousser à gémir, qu'ils vont réussir à vous faire murmurer, qu'ils vont réussir à vous tourner, à vous faire abandonner la foi. Eux, les démons, c'est ça. Ils pensent ça quand ils viennent vous attaquer. Mais la vérité, c'est que Dieu, c'est pas ça son plan. Et de toute façon, le diable fait une œuvre qui le trompe. Il fait que ce que Dieu lui dit, ses intentions ne sont pas bonnes, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, Dieu veille sur tout. Dans l'idée de Dieu, il ne vous tourmente que dans le but de montrer à Satan votre fidélité. Est-ce que c'est ce qu'on vient de lire ou pas? Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Alors je m'en fous, moi, des bouquins, des soi-disant pasteurs, évangélistes et compagnie, qui viennent vous raconter des expériences qu'ils ont fait avec le diable en Afrique ou je ne sais où. Moi aussi j'en ai fait, ça fait 10 ans. Eh bien, c'est toujours la même chose. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui est la vérité, et non pas toutes ces fables qu'on aime à se raconter au coin du feu le soir pour se faire peur avant d'aller au lit parce qu'on n'a pas la télé, c'est trop cher. D'accord? Des fables. Dieu ne permet à Satan de vous troubler, de vous tourmenter, de vous tenter que pour montrer à Satan votre fidélité, votre sanctification, votre pureté, votre force de caractère, votre amour, votre patience. Satan en prend plein la tronche quand il voit ça. Ce récit biblique, il nous oblige à réfléchir. Vous n'aurez jamais d'idée claire sur la question du mal tant que vous n'aurez pas compris qu'en réalité, le diable est un serviteur de Dieu. Jésus racontait des paraboles. Vous permettez que je vous fasse une parabole? Je vais vous faire une parabole. Il était une fois une petite fille qui gardait les brebis dans les champs. Ce n'est pas un petit garçon, c'est une petite fille là. Petite fille, parce que c'est encore plus mignon. Petite fille qui gardait les brebis dans les champs. À côté d'elle, il y avait un gros chien noir, avec des grandes dents pointues, avec un regard terrible de braise. Soudain, la petite fille voit une brebis zinzin qui se dirige vers le champ du voisin. Non, 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 il y a de l'herbe plus verte là-bas, je vais y aller. Waouh, ça va aller mal pour elle. C'est interdit d'aller là-bas. Qu'est-ce que fait la petite fille? Elle envoie le chien. Et lui dit, vas-y, mords-la. Et le chien obéit, il se lève en aboyant, il se précipite vers la brebis et il lui mord les pattes. Évidemment, la brebis a peur du chien. Elle a peur du chien. Et puis, elle revient dans le champ vers son maître, n'est-ce pas? Elle revient. Et le chien, eh bien, il revient aussi vers la petite fille, son maître. Et la petite fille envoie comme ça le chien contre les brebis parce que les brebis n'ont pas le droit de transgresser les règles et de sortir de la prairie, même si l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est clair? C'est la même chose avec Monsieur le Diable. C'est la même chose. Quand vous transgressez les lois de Dieu, ou simplement quand Dieu le veut pour une raison ou pour une autre qui vous échappe, le diable vient vous mordre un peu, parce que Dieu le lui permet, et quand vous revenez dans le droit chemin, ben le chien, le diable, eh bien, il vous mord plus. C'est vrai ou c'est faux? Le diable reçoit l'ordre de faire ceci ou de faire cela, et puis il arrête quand il a fait ce qu'il devait faire. Il ne peut pas faire davantage, il n'a pas le droit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Le chien, il est toujours là. Vous comprenez? Mais il ne mord plus. C'est un serviteur de Dieu. C'est un ange qui fait mal, c'est vrai. Le mot ange signifie envoyé. C'est un envoyé de Dieu qui fait mal, c'est vrai. Il fait mal, c'est vrai. Mais il est sous haute surveillance. Mes frères et sœurs, tous les sages, tous les saints, tous les prophètes ont été tourmentés par des esprits malins, impurs et toutes ces sortes de choses. Dieu leur a envoyé ces esprits, il les a engés, il les a envoyés, ces mauvais esprits, pour les tenter, pour les éprouver, dans le but de glorifier Dieu. Votre façon de réagir à l'épreuve, à la tentation, au problème, glorifie ou déshonore Dieu. Il y a Dieu et vous. Il n'y a pas Dieu, le diable et vous. Il y a Dieu et vous. Le diable, c'est juste un employé de Dieu pour faire bouger les choses quand ça ne bouge pas dans le bon sens. Ou pour les faire bouger dans le bon sens parce qu'elles ne bougent pas du tout. Les mauvais esprits ne vont que là où on les envoie et ils obéissent aux ordres. Ça, c'est ma Bible qui le dit. Peut-être pas la vôtre, mais ma Bible, elle dit ça. Donc moi, je crois ma Bible et pas tous ceux qui disent des autres choses. Même s'ils ont des expériences extraordinaires à raconter, je m'en fiche, moi je lis ma Bible. Ma doctrine, ma sainte doctrine est basée sur la Bible et non pas sur les expériences des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent des fois dérailler. La Bible ne déraille jamais. Donc les mauvais esprits ne vont que là où on les envoie et ils obéissent aux ordres, mais pas plus. Pas plus. Dieu connaît nos forces et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Vous voyez? Si vous voulez encore des versets, je peux vous en donner d'autres. Hein. Les Satan et compagnie ne font pas ce qu'ils veulent. Ils n'en ont ni le droit, ni le pouvoir. Ils ont cette fonction. C'est une fonction, c'est des fonctionnaires, je vous ai dit. Depuis qu'ils se sont révoltés contre Dieu, il y a longtemps, ils se sont révoltés contre Dieu, c'est toute une histoire. Et puis maintenant, leur fonction, c'est de faire le mal, dans le but que vous, enfants de Dieu, vous glorifiez Dieu par votre comportement en face des difficultés. C'est clair? Par votre comportement, les diables, les satans, les démons apprennent que Dieu est infiniment plus sage qu'ils ne l'avaient pensé. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10 nous dit que toutes ces puissances et ces autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par nous. C'est qui ces puissances dans les lieux célestes? C'est Satan et tous ces anges qui sont dans les lieux célestes. C'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre ces esprits-là. Et puis par notre façon de nous comporter, ces esprits-là connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est clair? Les mauvais esprits sont en quelque sorte des demi-dieux. Par rapport à l'être humain, c'est vrai qu'ils sont un peu plus doués. Ils ont des choses, ils peuvent faire des tas de choses que voilà, par exemple, voyager à la vitesse de la lumière, c'est des esprits, hein, donc voyez. Mais ils ont leurs limites aussi. Et puis à la fin, ils finiront par être détruits, c'est ce que la Bible nous dit. Donc écoutez bien ça, écoutez-moi bien parce que là, ça va être un peu intellectuel. Avant Moïse, il y avait déjà l'idée d'un seul Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a lancé l'histoire, il y avait déjà l'idée d'un seul Dieu. Mais parmi ceux qui avaient l'idée d'un seul Dieu, il y avait aussi l'idée de plusieurs dieux. J'explique, écoutez-moi bien. Moïse, il a apporté le monothéisme pur et dur. Le monothéisme révélé à Moïse conduit à n'adorer qu'un seul Dieu, à ne craindre qu'un seul Dieu. Les autres, même s'ils admettent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils sont non pas monothéistes, mais monolâtres. C'est un mot, c'est un vieux mot, vous n'allez pas le trouver dans les nouveaux dictionnaires, mais regardez dans les dictionnaires de théologie, ça existe. Monolâtres. C'est-à-dire, ils croyaient en un seul Dieu, il y en a encore, ils croyaient en un seul Dieu, mais ils ne nient pas l'existence d'autres dieux, d'autres puissances. Ils les craignent, et même des fois, ils essayent de les apaiser en leur rendant un culte, n'est-ce pas? Voilà. Alors, dans l'Écriture, dans Deutéronome 29-25, il y a la pensée qu'il y a d'autres dieux. Vous lirez ça chez vous. On retrouve cette idée dans Juges 2-12 aussi. Il y a d'autres dieux. Hein, voilà, un peu bizarre. Voyons ce que Paul en dit. 1 Corinthiens 8-4-6. 1 Corinthiens 8-4-6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde. Ah bon, il n'y a point d'idoles ? Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a point d'idoles ? Moi, j'en vois plein dans les églises catholiques déjà. Puis quand je vais en Afrique, je vois plein d'idoles. Il n'y a pas d'idoles dans le monde ? Non, non, il n'y a pas d'idoles dans le monde. Je relis, hein. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez la gymnastique? Vous voyez sa pensée? Vous voyez comment Paul dit que les faux dieux sont des prétendus dieux, mais qu'en réalité, ils ne le sont pas. Maintenant, je reviens. Le monothéisme de Moïse, il va si loin qu'il ne tient même pas du tout, mais alors là, pas du tout compte du diable. Est-ce que vous avez remarqué ça? Maintenant, celui qui a écrit le livre de Job, il l'a écrit longtemps avant que Dieu ait fait une alliance avec Abraham. Sinon, il en ferait mention de l'alliance faite avec Abraham. Jamais. Il l'a écrit longtemps avant Moïse, parce qu'il ne fait jamais mention de l'Exode, il ne fait jamais mention de la loi de Moïse, jamais, on n'en parle pas du tout. Je dis ça pourquoi? Pour vous montrer qu'au temps de Job, on croyait à un Dieu unique, mais que on croyait qu'il avait des fils. Des fils de Dieu, c'est des... Il y en a deux qui suivent. Les fils de Dieu, c'est des... Dieu. Bon, autrement. Les fils des chiens, c'est des... Chiens. Les fils des chats, c'est des chats. Les fils des hommes, c'est des... Et les fils de Dieu, c'est des... Voilà. Alors, je reprends, je dis ça pour vous montrer qu'au temps de Job, on croyait qu'il y avait un Dieu unique, mais qu'il avait des fils, c'est-à-dire des dieux. Ils étaient monolâtres. Ils n'avaient pas encore la révélation du monothéisme. Nous savons que ces fils de Dieu, comme il les appelait, c'était des esprits que nous, nous appelons des anges. Il y a des bons anges et il y a des mauvais anges. D'accord? Alors, nous devons veiller à être vraiment des monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu, point! Il n'y a pas un Dieu en trois personnes, parce que ça fait trois personnes, ça fait donc trois dieux. Il y en a un qui s'est manifesté de trois manières différentes. Un Dieu, il y a les sept esprits de Dieu, ça ferait 3 plus 7 égale 10. Non, il y a un seul Dieu. Amen et amen. Il y a un seul Dieu. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas des monolâtres, nous sommes des monothéistes. Ceux qui croient dans la Trinité sont des monolâtres. Ils vont avoir les oreilles qui frisent quand ils vont entendre ça. Nous adorons Dieu seul. Et eux, ils adorent Dieu seul tout en croyant à d'autres puissances spirituelles et ils les craignent. Ah, vous comprenez pourquoi ils craignent tellement le diable? Rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille. Ce n'est pas eux qui décident, le diable et les démons, ils ne décident rien, ils ne font qu'obéir aux ordres. Job, lui, le savait. C'est pourquoi il ne se plaint pas. C'est pourquoi il ne rouspète pas contre Dieu. Et vous, est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a aucune autre puissance que celle de Dieu? Si Dieu est tout puissant, quelle place y reste-t-il pour une autre puissance? Il n'y a pas d'autre puissance que celle de Dieu. Personne n'existe en dehors de Dieu. C'est comme il dit là, il n'y a pas d'idole. Eh bien, il n'y aurait pas vous non plus s'il n'y avait pas Dieu. Personne n'existe en dehors de Dieu. Vous voyez? Il a tout créé. Et il a tout créé, la Bible nous dit, dans un but. Alors, vous avez été créé pour être la parole faite chair pour votre époque. Et étant la parole faite chair pour votre époque, vous avez le pouvoir, quand les démons se manifestent, de les renvoyer d'où ils viennent. Ou même plus, vous avez le pouvoir de les lier, de les chasser dans les lieux de ténèbres, dans les abîmes. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Voilà votre fonction à vous. Voilà notre fonction à nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas de craindre d'une manière ou d'une autre, d'en parler tout le temps en disant « Oh, le diable, oh, il m'arrive, oh, qu'est-ce qu'on est béni à ce moment, qu'est-ce que le diable va nous passer plus tard ?» Non. Vous n'avez pas à les craindre, ni à vous plaindre de leurs attaques. Ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Faites le vôtre. Chassez-les, liez-les. Les insultez pas, hein, faut pas. Vous les respectez, c'est des fonctionnaires, mais vous avez le droit de leur claquer la porte au nez. Voilà, ça c'est une bonne chose, non? Mais ne les craignez pas, c'est leur donner trop d'importance. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, nous dit la Bible. Ça veut dire que la crainte du diable est le commencement de la folie. Oui ou non? Michel, tu joues sur les mots. Bon, ben écoutez, jouez avec vos doctrines si ça vous amuse. Moi, je préfère prendre un mot, ça veut dire ça. La Bible dit ça avec des mots, donc je crois les mots qu'elle dit. Je voudrais terminer avec une belle réflexion magnifique. Pour vous montrer que vous devez être équilibré dans toutes choses, et dans ces choses en particulier au sujet des esprits. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, elle est parfaitement équilibrée. Elle devient déséquilibrée quand on en prend un petit bout pour faire une religion avec. Mais il ne faut pas prendre un petit bout, il faut prendre la parole de Dieu dans son intégralité. Elle est parfaitement équilibrée. Alors, je vais juste vous faire un petit truc très amusant, très joli, pour vous montrer l'équilibre. Est-ce que vous savez quel est le plus petit chapitre de la Bible? C'est le psaume 117. Est-ce que vous savez quel est le plus grand chapitre de la Bible? C'est le psaume 119. Bravo Simone. Et le chapitre du milieu de la Bible, c'est donc le 118. Il est entre le 117 et entre le 119. C'est entre le plus grand et entre le plus petit. Entre le plus grand et le plus petit, c'est le 118. Savez-vous combien il y a de chapitres avant le psaume 118 dans toute la Bible? Combien il y a de chapitres, pas dans les psaumes, mais dans toute la Bible avant le psaume 118? Il y en a 594. Savez-vous combien il y a de chapitres après le psaume 118? 594. Alors maintenant, pour faire un petit calcul, 594 plus 594, notre frère Stéphane Comptable va nous le dire, ça fait 1188 exactement, rapide, hein. 1188, nous sommes dans le psaume 118, 1188, ça fait 1188, 118, chapitre 118, verset 8, 1188. Vous me suivez toujours? Que nous dit le verset du centre de la Bible, le verset 8 du chapitre 118? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Voilà le verset que Dieu donne. C'est-à-dire que l'équilibre, on ne parle même pas du diable, il y a Dieu et il y a l'homme. il vaut mieux se confier en Dieu. Quand l'homme, le diable inexistant, il n'est même pas mentionné dans le centre de la Bible. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est le secret de la réussite. Il y a deux choses importantes, Dieu et l'homme. Il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Le diable n'est qu'un employé, un larbin. Ma décision, elle doit être de ne pas craindre l'homme, mais de craindre Dieu. De me confier en Dieu, mais pas dans l'homme. Dieu est le centre de ma vie, et le diable, pauvre diable. Il est plus que vaincu au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la phrase type. Il est plus que vaincu au nom de Jésus. Puisque nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus, il est plus que vaincu au nom de Jésus. Et il fait une œuvre qui le trompe. Alors réjouissons-nous, soyons libres, soyons tranquilles. Dieu s'occupe de nous. Montrez-vous digne de sa confiance, comme Job s'est montré digne de sa confiance. Et vous pouvez vous attendre à un résultat comme celui que Job a eu, c'est-à-dire de devenir de nouveau extrêmement prospère et béni dans tous les domaines de votre vie. Si jamais le diable vous attaque en ce moment, réjouissez-vous, c'est que Dieu s'occupe de vous. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs avec ces quelques mots d'encouragement que je leur donne. Que le diable est vaincu, mais il faut le comprendre. Pourquoi il est vaincu? Qu'est-ce qui se passe? Et quelle doit être ma position? Merci Seigneur de m'avoir donné cette intelligence pour transmettre ça à mes frères et sœurs, pour qu'ils le comprennent et qu'ils puissent le vivre avec la tête haute, se réjouissant de savoir que tu tiens toutes choses entre tes mains et que toutes ces choses-là, elles concourent en fait à notre bien parce que nous sommes appelés par toi, nous sommes aimés de toi. Merci Jésus. Amen. Amen.